C'est deux textes liturgiques, donc l'épître est tirée des Actes des Apôtres de Saint-Luc. J'ai rapporté dans mon premier livre, Théophile, tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir par l'Esprit Saint donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il s'éleva vers les cieux. Il s'était aussi montré à eux vivants après sa passion par des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Comme il mangeait avec eux, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, que vous avez, dit-il, entendu de ma bouche, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint dans peu de jours. Ceux donc qui se trouvaient réunis l'interrogèrent en disant, Seigneur, est-ce maintenant que vous rétablirez le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est point à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il eut dit ces paroles, sous leur regard, il s'éleva et nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils contemplaient attentivement le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que les hommes se présentèrent en vêtements blancs et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été élevé dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les 11 étant à table, Jésus leur apparut et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Il leur dit, allez par le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront les serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles dont elles étaient accompagnées. Je vais vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, après sa résurrection le jour de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ va achever la formation de ses disciples pendant 40 jours. Le texte des Actes des Apôtres nous dit qu'il leur parla du royaume des cieux, du royaume de Dieu. On n'a pas de détails. Il est évident, pendant ces 40 jours, après sa résurrection, Jésus, notre Seigneur, a confirmé la foi des disciples qui avaient été bien découragés par la passion. Ils avaient pratiquement tous perdu la foi en sa divinité, sa foi en sa leur foi en sa résurrection. Et il va leur, comme on dit vulgairement, remonter le moral et achever leur formation, surtout. Les points qu'elle est nécessaire pour eux de bien connaître pour pouvoir partir à la conquête du monde. Et il va les réunir à Jérusalem et va remonter au ciel. Imaginez un petit peu la confusion des apôtres qui perdent leur maître. Mais notre Seigneur les a prévenus, je reviendrai à la fin des temps. Et avant de revenir à la fin des temps, je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Il leur annonce donc que dans 10 jours, il va revenir sous la forme du Saint-Esprit pour leur donner la force dont ils avaient besoin. Et achever donc par l'effusion du Saint-Esprit sur l'âme des apôtres, achever donc le travail de formation. Alors essayons un petit peu de méditer sur cette ascension de notre Seigneur. Ascendere en latin, ça veut dire monter. Donc, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel, ils sont obligés de lever les yeux. Donc, il y a deux attitudes. Ou on lève les yeux vers le ciel, vers notre Seigneur Jésus-Christ, Ou on refuse de lever les yeux pour suivre notre Seigneur qui monte au ciel, et on baisse les yeux vers la terre. On a le choix. Soit le ciel, soit la boue d'ici-bas. Soit suivre notre Seigneur Jésus-Christ, aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même, on regarde vers le ciel. Soit aimer ce monde d'ici-bas, jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité de la terre. Donc soit je monte le regard, je maintiens déjà mon âme au ciel, même si je ne suis pas tout de suite. Parce que ce ciel est dernier et premier dans l'intention, mais dernier dans l'exécution, dit saint Thomas. Soit je lève les yeux vers le ciel et je maintiens déjà ma volonté, même si je ne suis pas encore. Soit je refuse le ciel et je me maintiens ici-bas sur la terre. C'est tout le mystère de ce choix que nous avons tous à faire. Soit la cité du ciel, soit la cité de la terre. Deux cités totalement opposées. Et on trouve un très beau symbole de cette fête de l'Ascension pendant la messe. La messe qui résume toute la liturgie. Pendant la messe, qu'est-ce qui se passe au moment de la consécration? Le prêtre va prononcer les paroles de la consécration, il va élever l'hostie consacrée. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, il va élever au-dessus de sa tête pour présenter justement aux fidèles qui vont être obligés de lever les yeux aussi comme les apôtres l'ont fait pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ce symbole du prêtre qui élève la Sainte Hostie bien haut pour la présenter à l'adoration des fidèles, représente l'ascension. Et ensuite, il va faire la même chose avec le calice. Il va faire la même chose avec le calice, il va prononcer les paroles de la consécration, transformer la substance du vin, la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et lever le calice pour obliger encore une fois les fidèles à suivre cette élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette montée du calice, cette montée de l'hostie consacrée représente l'ascension. Elle représente la montée de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Et donc, il faut s'accrocher à ça. C'est ça la messe. La messe, c'est le renouvellement du mystère de la passion. C'est aussi le renouvellement de la résurrection. C'est le renouvellement de l'ascension. C'est le renouvellement de la Pentecôte. Et donc, il faut nous aussi regarder vers cette hostie qui monte pour nous rappeler que c'est là-haut que le bon Dieu nous attend. Il est monté au ciel pour nous préparer une place. Et que nous avons donc ce choix à faire. Ou le ciel, ou la terre. Mais pas les deux à la fois. On ne peut pas plaire à deux maîtres à la fois. Nul ne peut plaire à deux maîtres à la fois. Ou j'adore le premier et je hais le deuxième, ou j'aime le deuxième et je déteste le premier. Alors, essayons un petit peu de creuser un petit peu tout ça pour aller descendre un peu plus profondément. Il y a deux vertus cachées derrière la fête de l'Ascension. L'espérance, bien sûr, et l'humilité, qui se tiennent d'ailleurs. L'espérance, c'est la grande vertu qui va être demandée pour la fête de l'Ascension, parce que notre Seigneur Jésus-Christ disparaît au ciel. On ne le voit plus, mais il est toujours là. Il est toujours là parmi nous, il a voulu rester parmi nous avec la transsubstantiation, avec la Sainte Messe. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc monter au ciel. Il demande à ce que notre âme le suive là-haut, tout en étant obligé de rester sur la terre. Et donc, il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle, si vous voulez, par cette fête de l'Ascension, mais que nous sommes sur la terre que pour un temps. C'est ça l'ascension. Notre Seigneur qui monte au ciel nous rappelle, c'est là-haut que je vous attends, pas ici-bas. Vous êtes sur la terre, vous êtes des viateurs, c'est le terme qu'on utilise. Le viateur, c'est celui qui est, qui est sur la via. La via, c'est le chemin. Nous sommes des pèlerins. Nous montons vers le ciel. Et cette fête de l'Ascension manifeste la toute-puissance de Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel par ses propres forces, chose que nous ne pourrons pas faire. Nous nous monterons au ciel un jour, avec la grâce du bon Dieu, si nous mourons en état de grâce, par la force de Dieu, pas par notre propre force. Et donc nous sommes sur la terre pour préparer le ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas là pour nous installer le plus longtemps possible ici-bas sur la terre, ça c'est la cité de la terre. Cité de la Terre, qu'est-ce que veulent les gens de la Cité de la Terre? Ils veulent s'installer sur Terre le plus longtemps possible. Nous, pèlerins, nous savons, nous ne sommes pas les citoyens de la Terre. Nous sommes les citoyens du ciel, en puissance, avant de devenir les citoyens du ciel en acte. Et donc, notre esprit, notre intelligence, notre volonté doivent déjà être là-haut, même si, dans la pratique, nous ne pourrons pas être là-haut avant le moment de notre mort, après le passage au purgatoire, si nous avons la grâce de mourir en état de grâce. Donc il faut nous rappeler cela, nous rappeler pourquoi nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour préparer le ciel. C'est ça qu'il faut dire à nos enfants. Il ne faut pas dire à nos enfants, essayer de trouver une bonne place au soleil de cette terre. Non, il faut préparer nos enfants. Vous êtes sur la terre pour préparer le ciel. Vous êtes sur la terre, pourquoi est-ce que nous sommes créés? Je viens d'expliquer ça. Ceux qui suivent la petite retraite, je suis en train de prêcher actuellement. J'ai expliqué ça au début de la retraite. Nous sommes sur la terre pour adorer et pour obéir. C'est deux seules raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour adorer Dieu. Nous sommes sur la terre pour obéir à Dieu. Et par cette obéissance, pouvoir aller au ciel. Donc pour cela, il y a une vertu qui est fondamentale. La vertu d'espérance, d'abord, pour ne jamais se décourager, parce qu'on ne va pas arriver au ciel en 5 minutes. Il y a tout un travail de purification, d'arriver au ciel. Rappelez-vous les 3 étapes de la vie spirituelle. On commence par la voie purgative, la voie de purification, puis on reçoit les lumières du Saint-Esprit, voie illuminative, avant d'arriver en voie unitive. La voie unitive, c'est le ciel, c'est la voie mystique, c'est le mariage spirituel avec notre Seigneur. Mais ça, c'est au bout d'un travail de préparation. Donc il faut garder cette espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Si j'observe vos commandements. Donc la porte d'entrée du ciel, c'est l'état de grâce. J'aime oublier ça. C'est pas pour rien un point qui me frappe beaucoup dans la fête de l'Ascension, c'est l'évangile choisi. L'évangile de Saint-Marc. Et là, qu'est-ce que nous rappelle Saint-Marc, l'évangéliste. Cette phrase qui est détestée par tous les modernes. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tout l'écuménisme fou de Rome, la Rome actuelle, de l'Église du Vatican II, tout est détruit par cette phrase. Si je ne crois pas, si je ne suis pas baptisé, je ne peux pas aller au ciel. Il faut être baptisé, qui ouvre la porte, mais il faut encore croire. Évidemment, il faut rajouter la vertu de charité. Par contre, si je crois, si je vis dans l'état de grâce, si j'ai le baptême, à ce moment-là, je peux aller au ciel. Donc le baptême est nécessaire au salut. La foi, l'espérance, la charité sont nécessaires au salut. C'est pour cela que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Rappelons-nous cette vérité essentielle qui est niée ouvertement par Bergoglio à Rome. Vous savez que Bergoglio a dit, je ne sais pas combien de fois, que tous les hommes sont des enfants de Dieu, ce qui est une hérésie pure et simple. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, bien sûr. Mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu, parce que le bon Dieu a voulu justement que ses enfants soient ceux qui sont marqués par le caractère du baptême. Même si je viens en tel péché mortel et que je suis baptisé, je suis toujours enfant de Dieu. Attention, ça ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour aller au ciel. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais il faut insister sur ces choses plus que jamais aujourd'hui. Il y a malheureusement l'état d'enfant du bon Dieu qui vit dans le péché mortel. Ils sont enfants de Dieu, ils sont créatures de Dieu, ils sont enfants de Dieu par le baptême. Il manque la charité. La charité, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. N'oublions pas qu'il faut, encore un point de doctrine qui est nié par des tas de gens, il faut appartenir à l'âme de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et un corps est composé, pour pouvoir vivre, un corps a besoin d'une âme. Donc dans l'Église catholique, il y a un corps et une âme. Le corps de l'Église catholique, c'est l'association, si vous voulez, de tous ceux qui sont baptisés. À partir du moment où je suis baptisé, j'ai reçu le baptême d'eau, où j'ai le sacrement de baptême, j'ai le caractère du baptême, j'appartiens au corps de l'Église. Mais il faut rajouter l'âme. Un corps sans âme, c'est un cadavre. Et l'âme de l'Église, c'est quoi? C'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce. À tel point que l'Église va jusqu'à enseigner que même si je n'ai pas le baptême d'eau, c'est-à-dire si je ne fais pas partie du corps de l'Église, parce que je n'ai pas reçu le baptême d'eau, Mais j'ai un véritable baptême de désir, implicite ou explicite. Parce que, par exemple, je me prépare au baptême, j'ai un regret de mes péchés, et que je meurs, hélas, avant de recevoir le baptême pour un adulte. J'appartiens à ce moment-là à l'âme de l'Église, et même si je n'ai pas reçu le baptême d'eau, par le baptême de désir, j'ai la vertu de charité en moi. Et comme la vertu de charité est la condition sine qua non pour aller au ciel, toute personne qui est en état de charité, même sans le baptême d'eau, peut aller au ciel. Attention, ceci est nié par tout un groupe d'hérétiques, on appelle ça les finéistes, qui nient justement ce point de doctrine. Et c'est pour la raison pour laquelle le pape Pie XII, en 1953, je crois que c'était, a condamné le finéisme, a condamné le père Léonard Finet, un prêtre de Boston, dans le Massachusetts américain, qui niait justement ce point de doctrine. N'oublions pas qu'il y a des millions de personnes au cours de l'histoire de l'Église, à commencer par beaucoup des martyrs, qui étaient des catéchumènes au moment de leur mort, martyrs. Ils sont morts de sa souffrance atroce pour notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup n'étaient pas baptisés. Pas encore. Ils sont martyrs, ils sont au ciel, ils sont canonisés par l'Église. Ils sont au ciel parce qu'ils avaient cette vertu de charité qui faisait d'eux des membres de l'âme de l'Église. Vous voyez comme cette vertu d'espérance nous amène à la vertu d'humilité. Donc la fête de l'ascension, c'est la fête de l'espérance. Et Dieu sait si on a besoin de cette vertu d'espérance aujourd'hui. Parce que si on regarde les choses avec un regard purement humain, on a de quoi se décourager, c'est moins qu'on puisse dire. On voit ce qui est en train de se passer en France actuellement, la guerre civile pratiquement partout, la dictature sanitaire, toutes les imbécilités actuelles que nous sommes obligés de subir. Eh bien, il faut la vertu d'espérance. Il ne faut surtout pas garder ici-bas sur la terre, sinon on se décourage. Il faut lever les yeux vers le ciel et regarder notre Seigneur Jésus-Christ qui nous attend là-haut. Donc cette vertu d'espérance amène la véritable humilité. Et l'humilité va ouvrir la porte à toutes les autres vertus. C'est pour ça que les pères de l'Église disent que l'humilité, c'est le terreau de toutes les vertus. Et là-dedans qu'on plante les graines. Et les graines vont pousser dans la mesure où il y a de la terre. Et la terre, c'est l'humilité. Cette humilité, notamment, va amener à trois vertus essentielles, la vertu d'obéissance, la vertu de justice et la vertu de charité, évidemment, qui est la fleur de toutes les vertus. J'ai déjà expliqué ça, donc j'y reviens en deux minutes, parce que c'est des choses absolument fondamentales à comprendre aujourd'hui. La vertu d'obéissance, pourquoi est-ce que la vertu d'obéissance est nécessaire? Parce que la vertu d'obéissance nous amène à la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Saint Paul qui l'enseigne. Donc la vertu d'obéissance nous amène à la croix, et la croix nous permet de trouver la vraie liberté. J'ai déjà expliqué ça il y a quelques sermons. La vraie liberté qui élimine la fausse liberté. La liberté qu'on nous prêche en France aujourd'hui, c'est la fausse liberté. Nous voulons la véritable liberté, la liberté des enfants de Dieu, le pouvoir de nous mouvoir dans le bien, le pouvoir de choisir les moyens pour atteindre la fin. Et notre fin, c'est le ciel. Donc l'espérance va donner la véritable obéissance qui amène la destruction de la fausse liberté révolutionnaire dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. La deuxième vertu, c'est la vertu de justice. Pour rendre à chacun ce qui est dû, la vertu de justice nous permet d'éliminer la fausse égalité révolutionnaire. Parce que nous sommes tous différents, je viens de vous l'expliquer, on est différents d'abord par le baptême et par la charité. Il y a ceux qui appartiennent à l'âme de l'Église, il y a ceux qui n'appartiennent pas à l'âme de l'Église. Ceux qui appartiennent à l'âme de l'Église peuvent se sauver, ceux qui n'appartiennent pas à l'âme de l'Église ne peuvent pas se sauver, c'est comme ça. Et donc, la vertu de justice va permettre d'éliminer cette fausse idée d'égalité. Nous sommes tous différents. Au moment du jugement général, au moment de notre jugement, tout le monde n'est pas jugé de la même façon. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les brebis qui seront à droite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger avec les apôtres, avec la croix. Et il dira à ses bons, venez les bénis de mon Père. Mais à gauche, il y aura les mauvais. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? On vient de le méditer avec ceux qui font la retraite. À gauche, il leur dira, éloignez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. C'est l'égalité, ça? Il n'y a pas d'égalité. Et pour achever, cette vertu d'espérance, cette vertu d'humilité, elle va nous donner aussi la vertu de charité. La vertu de charité, cette fois-ci, pour éliminer la fausse fraternité révolutionnaire. Il y a une vraie charité, une fausse charité. La vraie charité, c'est l'amour de Dieu, le respect de la loi divine. La fausse charité, c'est la charité révolutionnaire. Alors, mes bien chers frères, mes bien chers amis, il faut justement utiliser cette fête de l'Ascension dont nous avons tellement besoin, justement, pour garder nos yeux vers le ciel. On est tellement tenté de regarder ici-bas sur la terre. Parce que le ciel nous semble un peu loin. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a disparu derrière les nuages, on ne le voit plus. On oublie qu'il est là-haut. Alors, on a tendance à se rattraper avec les plaisirs d'ici-bas, mais les plaisirs d'ici-bas, ils ne durent pas. Le monde moderne ne sait faire qu'une seule chose, mentir. Mentez. Il en restera toujours quelque chose. On nous ment en longueur de journée. Les chaînes de télévision, toutes les réseaux officiels, tout le monde nous ment en longueur de journée. Parce que le gouvernement ne veut pas que nous connaissions la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je suis un être d'éternité. L'homme est créé pour une éternité. Ou de bonheur, ou de malheur. Ou je lève les yeux vers le ciel, et à ce moment-là, je peux avoir l'éternité de bonheur au ciel. Ou je refuse de lever les yeux, je baisse les yeux vers cette terre ici-bas, et ce sera l'éternité de malheur. J'ai un choix. Voilà pourquoi cette vertu d'espérance est tellement importante. C'est la petite flamme qui brûle. Tant que vous avez cette petite flamme qui est représentée un peu par un charbon qui brûle encore, il est couvert de cendres, c'est une braise qui brûle encore, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais vous soufflez dessus et le feu repart. Gardez cette vertu d'espérance. Ne vous découragez jamais. Là, je parle surtout pour tous ceux qui n'ont pas la chance de voir la messe, tous ceux qui n'ont pas les sacrements, ou très rarement. Eh bien, demandons au bon Dieu, justement, de donner à tous ces gens qui n'ont pas les sacrements, malheureusement, cette vertu d'espérance, parce que le bon Dieu ne peut pas nous demander l'impossible. Et donc, s'il ne permet pas, c'est pour un certain nombre de gens, hélas, d'avoir les sacrements, le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, le bon Dieu est obligé de donner à ces gens-là qui n'ont pas les sacrements des grâces supplémentaires pour qu'ils puissent vivre un tas de grâces, quand même. Parfois, on reçoit des messages de ce genre. « Monsieur l'abbé, j'ai tellement besoin de me confesser, j'ai pas de prêtre où je suis. Je fais quoi ? Mettez-vous à genoux au pied du crucifix. Embrassez les pieds de votre crucifix et récitez votre acte de contrition, suivi de l'acte de charité. Et vous récitez un acte de contrition, un acte de charité, à la suite, ça correspond à un acte de charité parfaite. Et l'Église ancienne, qu'un acte de charité parfaite, regretter ses péchés par pur amour de bon Dieu, ça efface tous les péchés. Non seulement ça efface tous les péchés, mais ça efface même les peines du purgatoire. C'est pour ça que quelqu'un qui meurt dans un acte de charité parfaite, un martyr par exemple, va droit au ciel, pas de purgatoire pour les martyrs. Eh bien, ces gens qui n'ont plus les sacrements sont un peu les martyrs du monde moderne. Il ne faut pas qu'ils se découragent, il faut qu'ils s'accrochent. Notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe d'eux, même si vous n'avez plus les sacrements. De plus en plus, c'est ce qui va nous être demandé. Et le bon Dieu a promis que nous ne serons jamais, jamais tentés au-delà de nos forces. Mais qu'avec les tentations, il nous donnera un moyen de nous en sortir. Alors, passons par notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que le Saint-Esprit qui va arriver maintenant dans 10 jours, dans la fête de la Pentecôte, il a été donné aux apôtres par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie n'est pas là au jeudi saint. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va instituer le sacrement de l'ordre. La Sainte Vierge n'est pas là parce qu'elle n'est pas prêtre. Mais le jour de la Pentecôte, elle est là. Pour l'Ascension, elle est là aussi. Le jour de la Pentecôte, elle est là parce que la Très Sainte Vierge Marie est l'intermédiaire de notre salut. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Même si Bergoglio, encore une fois, nie officiellement toutes ces vérités essentielles. Et puisque Notre-Dame est co-rédemptrice du genre humain, Notre-Dame, littéralement, elle est restée ici. Elle reste avec nous. Elle est dans la chapelle à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur l'autel, il vient aussi par elle, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc même la grâce de la communion, elle passe dans votre âme par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie. Et donc si vous gardez cette dévotion envers Notre-Dame, n'oublions pas que nous sommes au mois de mai, au mois de Marie, priez votre chapelet tous les jours. Suppliez la très Sainte Vierge Marie de ne pas permettre que nous décourageions, que nous nous obligions à regarder vers le ciel, le bon Dieu nous attend là-haut. Voilà toutes ces grâces qu'il nous faut demander. Alors, après votre communion d'aujourd'hui, ceux qui font la retraite ne peuvent pas encore communier, puisqu'on a commencé la retraite que mercredi, donc il faut encore attendre demain pour communier. Mais ceux qui communient, surtout, qu'ils supplient le bon Dieu de leur donner cette force. Vous donnez ces grâces dont nous avons tous besoin, moi le premier, pour que nous ne nous décourageons jamais, nous utilisions la vertu d'espérance, la vertu d'humilité et la dévotion à la Sainte Vierge Marie pour arriver à tenir le coup. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.